On va y arriver. Alors pour commencer, je vous ai ramené deux bandes dessinées. Je vais vous demander, petits et grands, quel est le point commun entre les histoires derrière ces bandes dessinées. Louis.
Ça finit toujours bien.
Ça finit toujours bien. Est-ce que tu as d'autres, d'autres points communs? Rémi. Il y a une histoire, effectivement. La BD serait décidément les chevassus. Après, Adam, on fait la brochette chevassus et comme ça, après, on est pas de jaloux comme ça. Thomas.
C'est toujours les mêmes qui gagnent,
effectivement. Il y a les chevassus. Attends, on finit vraiment tous les chevassus.
C'est de la fiction.
C'est de la fiction, effectivement. Adam.
Il se passe des trucs irréalisables dans la vraie vie.
Il se passe, tout à fait. Alors là, il y a des points communs, il y en aurait plein, effectivement. J'ai retrouvé ça dans mon armoire. Le point commun, effectivement, et Louis, tu l'as bien mentionné, c'est que ces histoires se finissent toujours bien. D'un côté, avec Lucky Luke, on a toujours le droit à un soleil couchant. Hop là. On a toujours le droit à la fin. Peu importe les péripéties, peu importe les problèmes qu'il y a eu, ça finit toujours avec un soleil couchant et Lucky Luke qui part vainqueur. L'autre, voilà, peu importe le nombre de Romains qu'ils ont dû taper, peu importe le nombre de druides qu'ils ont dû contrecarrer, ça finit toujours avec le fameux banquet de sangliers d'Astérix et Obélix. Qui d'entre vous aime bien les histoires qui se finissent bien? On aime tous les histoires qui se finissent bien. Combien de livres, combien de contes se finissent par la fameuse phrase? On parle pas d'Astérix Obélix, mais effectivement, les histoires se finissent souvent comme ça. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça fait quelques mois, depuis la rentrée, qu'on a le plaisir ensemble de parcourir le livre de Néhémie. Ça fait quelques mois qu'on a... Et là, aujourd'hui, on va arriver à la fin de Néhémie. Et la question que je nous pose, c'est est-ce qu'on va avoir le droit à un soleil couchant ou à un banquet de sangliers? Est-ce que ça se finit comme ça? Parce que pour l'instant, tout s'est à peu près bien passé. Chapitre 1, au début, vous en souvenez, bon, ça avait mal commencé, mais chapitre 1, Néhémie, il est à Suse, il apprend que qu'à Jérusalem, la situation va mal, que la ville est en piteux état et que le peuple est en difficulté. Néhémie 2, il prie, il retourne à Jérusalem, il remobilise tout le peuple et il motive tout le monde à reconstruire la muraille et les portes. Alléluia, tout va bien. Là, à ce moment-là, on aurait eu envie de faire un petit banquet de sangliers pour fêter cela. Mais c'est pas fini, chapitre 8, le peuple redécouvre la loi de Dieu. Et là, on assiste à la restauration, non pas de la muraille, mais la restauration du peuple qui vit à l'intérieur de la muraille. Chapitre 8, le peuple redécouvre, et il lisait distinctement la loi de Dieu, et pour en donner le sens, si ça vous dit quelque chose. Chapitre 9, le peuple exprime une magnifique prière de reconnaissance à Dieu. Et aussi, voilà, et aussi de confession de son propre péché, mais de reconnaissance, parce que Dieu, lui, est fidèle. Chapitre 10, alors là, on avait vu ça début janvier, le peuple prend plein de bonnes résolutions. On s'engage à ça, on s'engage au sabbat, on s'engage au mariage mixte, on s'engage pour la maison de Dieu, on s'engage, on prend plein de bonnes résolutions. Chapitre 11 et 12, on les a pas vus, mais c'est là, tout le peuple est là et participe à une cérémonie de dédicace, d'inauguration de la muraille. Et là, c'est magnifique. Chapitre 12, verset 43 de Néhémie. Ce jour-là, les Israélites ont offert de nombreux sacrifices et se sont livrés à des réjouissances, car Dieu leur avait donné un sujet de joie. Même les femmes et les enfants se sont livrés aux réjouissances. Et on a entendu des cris de joie loin de Jérusalem. Alors, le texte ne dit pas s'il y avait des sangliers au menu, mais on doit en être bien loin, tellement que tout se passe bien. Sauf qu'il est dans le chapitre 12, sauf qu'il y a un 13e chapitre dans le livre de Néhémie. Et on va voir, on va lire ensemble, page 343, les enfants, 343 dans ces Bibles-là. Et on va lire la fin, quelques versets du dernier chapitre de Néhémie. Et vous allez découvrir si on ressemble à un de ces scénarios. Néhémie 13. Néhémie 13. Chapitre, on va juste lire les versets 4 à 14 en détail, et puis les autres, je vous les résumerai, le chapitre est long. Néhémie 13, 4 à 14. Après cet événement, le prêtre Eliashib, qui avait reçu la responsabilité des salles de la maison de notre Dieu, et qui était un proche de Tobija, avait aménagé une grande pièce pour ce dernier. C'était une salle où on déposait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau, de l'huile, c'est-à-dire la part qui est due aux lévites, aux musiciens et aux portiers, et tous les prélèvements destinés aux prêtres. Et je n'étais pas à Jérusalem au moment où tout cela se passait, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année du règne d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'ai demandé au roi la permission de revenir à Jérusalem, et je me suis aperçu le mal qu'avait commis Eliashib au profit de Tobija en lui aménageant une pièce dans les parvis de la maison de Dieu. J'en ai éprouvé un très grand déplaisir et j'ai été jeté hors de cette pièce tous les objets qui appartenaient à Tobija. Puis j'ai ordonné qu'on purifie les salles afin d'y faire redéposer les ustensiles de la maison de Dieu ainsi que les offrandes et l'encens. J'ai aussi appris que les Lévites n'avaient pas reçu leur part et qu'ils s'étaient repliés sur leur terre, en particulier les musiciens chargés du service. J'ai adressé des reproches aux magistrats en leur demandant « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Et j'ai rassemblé les Lévites et je les ai réinstallés à leur poste. Alors tout Juda, verset 12, a amené la dîme du blé, du vin nouveau, de l'huile dans les entrepôts. J'ai confié la surveillance de ces derniers au prêtre Shéliéma, au scribe Tchadok et à Pédaja, l'un des Lévites, en leur associant Hanan, fils de Zakour et petit-fils de Matania. Car ces hommes avaient la réputation d'être dignes de confiance et je les ai chargés de faire la distribution à leurs frères. Verset 14, « Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela. Mon Dieu, et n'oublie pas mes actes de fidélité envers la maison de mon Dieu et son fonctionnement. » On s'arrête là pour le chapitre 13. Première partie donc ce matin, l'échec d'un peuple qui n'arrive pas à tenir ses bonnes résolutions. L'échec d'un peuple qui n'arrive pas à tenir ses bonnes résolutions. Souvenez-vous, chapitre 10, le peuple avait pris, comme nous, le 1er janvier, avait pris plein de bonnes résolutions. Et dont une, justement, concernant le temple et le service du temple. Chapitre 10, verset 39, il s'engage, le prêtre en service, issu d'Aaron, devra accompagner les Lévites quand ils prélèveront la dîme, et ceux-ci devront apporter la dîme de cette dîme à la maison de notre Dieu. Dans les salles, retenez bien ce mot-là, dans les salles de la maison du trésor. Non, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Chapitre 10. Et là, chapitre 13, depuis ce beau chapitre 10, Néhémie est apparemment retourné à Babylone auprès de son souverain, sa mission étant a priori terminée. Tout va bien, la ville est reconstruite, le peuple est motivé. Néhémie retourne à Babylone. Après tout, bon, il avait comme un boulot, hein, c'était le responsable des boissons du roi, et ses congés payés étaient sûrement épuisés. Donc il retourne bosser, et un certain temps après, à peu près peut-être un an ou plus, Néhémie décide de revenir à Jérusalem. Et que découvre Néhémie à son retour? Les enfants, vous avez suivi, c'est une des questions. Qu'est-ce qu'il découvre?
Le peuple ne tient pas ses résolutions. Ouais,
qu'est-ce qui est devenu le temple, le fameux temple où c'était dit on le voit, nanana. Okay. Il y a quoi dans le temple? Qui s'est installé là? Tobija. Il s'est installé là. Et c'est le grand prêtre Eliashib qui lui a permis d'installer ses bureaux au sein même du temple, tranquille, dans la salle réservée au stockage des offrandes et des ustensiles. Imaginez qu'un dimanche matin vous arrivez ici et qu'en fait on a retiré, je sais pas, une vingtaine de chaises là-bas, là au fond, et qu'on a installé pour Jean un petit bureau tranquille avec un petit canapé et tout ça. Et si vous rentrez, vous allez dire quoi? Et qu'est-ce que tu fais? Sauf que là, est-ce que vous avez remarqué, ça choque personne. Néhémie, lui, il revient, il est choqué, mais sinon, tout le monde s'était plus ou moins accommodé que dans le temple, eh ben, Tobija s'était installé, qu'Eliashib avait permis de lui, de faire un petit, alors, est-ce que c'est un bureau, est-ce que c'est un, on sait pas trop exactement ce qu'il y a, mais n'empêche qu'il, il était là. Alors, Tobija, on en avait déjà entendu parler au chapitre 4, c'est un notable important de Jérusalem, c'est quelqu'un important. Eliashib, c'est le grand prêtre. Donc là, premier réflexe, on peut crier à la corruption des élites. C'est les élites, c'est les puissants qui manipulent et qui abusent de leur pouvoir, certes. Mais est-ce que vous avez vu dans le texte pourquoi Tobija a pu s'installer là? Pourquoi il y avait de la place dans cette salle-là? Pardon? Les Lévites sont partis. Et pourquoi les Lévites sont partis? Ils n'ont pas reçu leur part. Donc le peuple qui devait amener la dîme, qui devait nourrir les Lévites, qui devait s'occuper des... Le peuple avait arrêté de nourrir les Lévites, de leur apporter des dons au temple. Et donc, au bout d'un moment, les Lévites, bah, ils gargouillent, hein, ils ont faim. Donc, les Lévites repartent, bah, cultiver à droite à gauche, hein, vivre. Et donc, effectivement, alors ça n'excuse pas Tobija et Eliashib qui ont un peu abusé en s'installant en plein milieu du temple. Mais n'empêche qu'on voit que la responsabilité, que ça soit le peuple, que ça soit les élites, que ça soit les notables, que ça soit les... Bref, personne n'est à la hauteur dans ce bazar. Personne n'est à la hauteur dans ce bazar. Et tous les engagements du chapitre 10, toutes les bonnes résolutions prises au chapitre 10, Néhémie revient et il se rend compte qu'il n'y en a aucune qui a été tenue. Concernant la dîme et le temple et le service du temple, on vient de le voir, c'est les versets 4 à 14 que l'on a lu. Si vous regardez le chapitre 13, c'est trois gros blocs. Le premier bloc, on l'a lu, donc c'est le constat d'échec concernant le temple et la dîme. Le deuxième bloc, c'est concernant le sabbat. Pareil, chapitre 10, le peuple avait dit « Le sabbat, on va le respecter, ta-ta-ta. » Néhémie, il arrive. Rien du tout. Le sabbat, c'est un jour comme les autres, c'est n'importe quoi. Et pareil, premier bloc, Néhémie essaye de remotiver un peu tout le monde. Et voilà. Et dernier bloc, pareil, sur la question des mariages mixtes avec les populations étrangères. Pareil, le peuple s'est engagé au chapitre 10. Et chapitre 13, versets 23 à 27. De nouveau, constat d'échec. Il y a eu de nombreux mariages avec des personnes qui ne font pas partie du peuple. Sur chaque thématique, sur chaque question, sur chaque détail, sur chaque engagement pris au chapitre 10, pas un n'est respecté au chapitre 13. Alors Néhémie essaye tant bien que mal de rétablir la situation, il essaye de remotiver le peuple, il essaye de redistribuer les rôles, et puis à la fin, il conclut chaque bloc avec une courte prière que l'on a lue tout à l'heure, et on y reviendra. Quoi qu'il en soit, on est très loin du soleil couchant de Lucky Luke. On est très loin du banquet de sangliers d'Astérix et Obélix. On est très loin. Mais cette situation nous apprend deux leçons. Il y a deux leçons à retenir. La première, c'est qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Comment, du chapitre 12 au chapitre 13, le peuple a basculé? Est-ce qu'ils se sont reposés sur leurs lauriers? Ils se sont dit, oh là là, on a fait, oh, tu t'en souviens, Néhémie 8, c'était excellent, on a eu une journée, on a fait... Ah, c'était bien, et donc ils s'appuyaient, ils disaient, c'est bon. Donc, est-ce qu'ils se souvenaient avec nostalgie des belles prières qu'ils avaient faites en Néhémie 9? Ils se souvenaient de cette merveilleuse dédicace de la muraille, chapitre 12. C'est bon. Et puis, petit à petit, peut-être trop sûrs de leur force, trop sûrs de leur motivation, ils se sont peut-être appuyés sur leur laurier. Et petit à petit, la salle des offrandes, elle s'est pas vidée du jour au lendemain. Petit à petit, c'est un tel qui a commencé à dire, bon, on vient d'avoir du vin nouveau, je vais plutôt garder une bouteille de plus pour moi. Ça s'est fait progressivement, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Le risque de s'endormir, le risque de s'appuyer sur ses lauriers, le risque de se croire, de perdre en vigilance. Est-ce que vous vous êtes éloigné, vous aussi? Est-ce que des fois vous avez déjà dit ça? Tiens, par rapport à avant, par rapport au bon vieux temps, par rapport à à 2015, j'en sais rien, 2010, est-ce que je me serais pas refroidi, endormi par rapport à avant? Une question, et peut-être, et je prie que parmi nous, aucun d'entre nous, un jour, en réfléchissant à 2022 à Cavaillon, ne se dise, ah ouais, je m'en souviens, en 2022 à Cavaillon, la vie d'église, ça allait bien, et aujourd'hui, voilà, que Dieu vous protège de cela, et me protège aussi de cela. La seconde leçon de leur échec que l'on peut tirer, c'est que même si nous voulons tenir nos engagements, même si nous voulons faire que des progrès, il nous faut reconnaître notre incapacité d'y arriver parfaitement. Devons-nous, pouvons-nous reprocher au peuple d'Israël d'avoir failli? Pouvons-nous leur reprocher d'avoir pas su tenir leur résolution? Que celui qui d'entre vous n'a jamais péché leur jette la première pierre. Ça vous dit quelque chose? Et petits ou grands, même quand on est, peu importe l'âge, petit ou grand, on a tous déjà fait ce constat d'échec dans un sens, de fragilité dans nos vies à différentes échelles. Alors, pas forcément sur la thème du sabbat ou je ne sais quoi, mais il y a toujours un domaine où vous avez expérimenté l'échec. Et nos vies ne ressemblent pas toujours à des banquets de sangliers et des soleils couchants. Pour reprendre le Galates 5 qu'a lu Jean ce matin, est-ce que vos vies sont faites uniquement d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi et de douceur et de maîtrise de soi? Qui d'entre vous, qui d'entre nous n'a jamais triché, menti, blessé, sombré, chuté, insulté même? Et si vous êtes une de ces personnes qui a déjà menti, blessé, chuté, sombré, insulté, désobéi, échoué, eh bien soyez les bienvenus à l'église. Soyez les bienvenus ici. La personne qui est à côté de vous est probablement dans le même cas que vous. Et l'église n'est pas faite pour les personnes parfaites et les bien portants. Elle est faite pour les malades et pour ceux qui se reconnaissent dans ce passage de Néhémie 13. Alors soyez les bienvenus, si c'est votre cas. Face à ce constat d'échec, que faire donc? Que faire donc? Vous avez vu les deux solutions que propose Néhémie dans le texte à chaque fois? Première solution, Néhémie, il essaye de réparer les dégâts. Il essaye de colmater les brèches. Il essaye de remettre debout tout le monde pour remotiver et relancer tout le monde, pour faire mieux. Pourquoi pas? On peut pas lui reprocher cette volonté de remotiver tout le monde. Bon, verset 25, est-ce que vous avez vu les méthodes qu'il utilise? 13, verset 25. « J'ai frappé quelques-uns de ces hommes, je leur ai arraché des cheveux et je leur ai fait prêter serment au nom de Dieu. » Bon, on peut, voilà, dans notre église, on fonctionne pas tout à fait comme ça. Voilà, c'est peut-être plus simple, mais voilà, mais Néhémie fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut, mais on a quand même l'impression que tout le travail qu'il fait, ben, on est en train de re-rentrer dans un cercle infernal, le cercle un peu vicieux qu'on retrouve dans le livre des Chroniques, qu'on retrouve dans le livre des Rois, ou bref, c'est reparti pour un tour, quoi. Parfois je ressemble un peu à Néhémie quand je range la chambre de mes filles. Je range la chambre de mes filles, tout en sachant très bien que le bazar va revenir très rapidement. Mais je le fais quand même. Mais je sais dans un sens au fond de moi que... Je parle de vous. Mais je sais qu'au fond de moi, bah, ça résout pas le problème. Et Néhémie, c'est un peu comme ça, il remotive tout le monde, mais bon, pas vraiment convaincant comme solution, n'est-ce pas? Et la seconde solution, c'est notre deuxième, ça sera notre deuxième partie. La deuxième solution que propose Néhémie, elle réside dans les trois courtes prières que fait Néhémie dans son passage. On va voir ça dans notre seconde partie, et ça nous encourage à crier à Dieu et à faire appel à sa grâce, plutôt que d'arracher les cheveux de son voisin et de son prochain. Regardez les petites prières que fait Néhémie à chaque fois après avoir constaté une situation et tenté de la réparer, mais il conclut à chaque fois, chaque bloc, par une courte prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me lire le verset 14, une autre personne 22 et une autre 31? 14, 22, 31. J'ai besoin de trois lecteurs. Louis.
Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, mon Dieu, et n'oublie pas les actes de fidélité envers la maison de mon Dieu et son fonctionnement.
Merci. Verset 22, la fin du verset 22. Souviens-toi, nous lis.
Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, mon Dieu, et aie pitié de moi conformément à ta grande bonté.
Merci. Dernier verset, il y a un bout là du verset 31. Souviens-toi. Souviens-toi de moi pour mon bien, mon Dieu. Trois courtes prières, trois courts SOS que Néhémie fait. Et Néhémie n'a pas d'autre solution que d'implorer à la grâce de Dieu et à la bonté de Dieu. Souviens-toi de moi, mon Dieu. Et aie pitié de moi conformément à ta grande bonté. Quelle autre solution avons-nous que de faire appel à la grâce de Dieu? Quelle autre solution avons-nous que de faire appel à la grande bonté de Dieu? Néhémie, par ses courtes prières, il nous montre la bonne solution à avoir face à l'incapacité de tenir parfaitement ses résolutions. Mais la vraie bonne solution, la solution définitive, c'est pas Néhémie qui va la donner. C'est celui qui chronologiquement, le personnage biblique qui chronologiquement suit Néhémie. Est-ce que vous savez qui c'est? Alors, si notre ami Ali, il a une belle chronologie biblique juste au-dessus de lui, ça, c'est l'occasion de faire la pub pour la chronologie si vous en voulez une. Néhémie, il est...
Néhémie, il est ici. Néhémie, là. Là, il y a tous les peuples, hop. Et là, après, il y a un trou dans l'histoire biblique. Et on arrive avec Jésus qui arrive. Néhémie 13, c'est le dernier, au sens chronologique du terme, c'est le dernier chapitre de l'Ancien Testament. Même s'il n'est pas, après les Bibles sont pas, les Anciens Testaments sont pas tout chronologiquement, mais Néhémie 13, c'est le dernier chapitre de l'Ancien Testament au sens chronologique. Et la personne qui va suivre Néhémie, c'est Jésus de Nazareth. Et en Jésus, et donc, ce constat d'échec de Néhémie 13, en fait, soulève le besoin d'un vrai sauveur. Soulève le besoin d'un vrai rédempteur. Néhémie 13, c'est comme si on finissait l'Ancien Testament sur ce goût d'inachevé. Sur ce besoin d'une solution beaucoup plus durable que celle d'arracher les cheveux à son prochain quand il a désobéi. Néhémie avait déjà compris à quel point la bonté de Dieu était importante. À combien plus forte raison pour nous, 2500 ans plus tard, qui avons Christ pour sauveur et rédempteur, à combien plus forte raison il nous faut nous accrocher à la grâce et à la bonté de Dieu. Quand nous chutons, quand nous péchons, quand nous ne sommes pas à la hauteur, quand nous sommes nuls, crions à Dieu et faisons appel à sa grâce. Il n'y a pas d'autre solution. Crions et faisons appel à sa grâce manifestée en Jésus-Christ. Et notre imperfection, notre péché, notre mensonge, notre égoïsme, notre individualisme. Je vous laisse continuer la liste. Mais tout cela, Jésus l'a porté sur lui à la croix. Il est mort pour cela, pour que nous soyons purifiés. Il est mort pour que nous soyons purifiés. Alors ça peut paraître fou, mais c'est la réalité. Ça peut vous paraître fou, mais c'est bien la vérité. 1 Jean 1,9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Et c'est basé sur ces vérités, sur cette grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, que nous pouvons, aujourd'hui même, et comme chaque jour, nous rapprocher librement de Dieu. Et que nous n'avons rien à craindre de lui, malgré nos manquements. C'est uniquement grâce à Christ que nous n'avons pas à avoir peur de Dieu. Quel Dieu merveilleux avons-nous. Néhémie tirait les cheveux à ceux qui désobéissaient. Regardez les paroles que Christ dit à ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir. Qu'est-ce qu'il leur dit, Matthieu 11 ? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Waouh ! Ça fait plaisir comme parole, hein ? Mieux que de se faire... Mieux que de se faire tirer les cheveux. Quel Dieu merveilleux avant nous, quel Sauveur précieux nous avons. Et la prochaine fois que vous n'êtes pas à la hauteur, la prochaine fois que vous ratez, criez à Dieu et faites appel à sa grâce manifestée en Jésus-Christ. On appelle ça l'Évangile. Et on voit que là, on réalise que l'Évangile, c'est pas seulement le message que l'on découvre à sa conversion, mais c'est le message par lequel on peut vivre jour après jour. Et ça, il faut se le prêcher à nous-mêmes. Il faut se faire de l'auto-évangélisation dans un sens. Il faut se prêcher l'Évangile jour après jour. C'est pas seulement un message que l'on a qu'il faut, voilà, une fois, mais il faut se le prêcher jour après jour. Je voudrais vous citer, avant de conclure, je voudrais vous citer une citation d'un livre que j'ai lu dernièrement, j'ai oublié de le ramener, imaginez qu'il est là. C'est Jerry Bridge qui dit dans le livre « À l'école de la grâce ». À l'école de la grâce, et il conclut un de ses chapitres en disant « Le seul remède est de revenir à l'Évangile et de recommencer à nous prêcher l'Évangile nous-mêmes tous les jours. Seul l'Évangile nous permettra de continuer à vivre par la grâce. Et c'est uniquement la grâce qui nous donnera le courage et la motivation de lutter contre le péché et de chercher à continuer à faire les bons choix, même si on échoue si souvent. » Cette citation, elle a été le moteur de ma réflexion dans Néhémie 13, et elle nous encourage à avoir la grâce, non seulement quelque chose qui nous pardonne du passé, de nos fautes passées, mais quelque chose qui nous remotive pour aujourd'hui, qui nous remotive à refaire les bons choix, même si on sait qu'il y a un risque. Et je voudrais vous donner une illustration pour ce dernier point. C'était les vacances, et peut-être vous avez eu l'occasion d'aller à la neige, ou voir un peu, ou faire un peu de ski. Alors, si vous n'êtes pas amateur de ski, l'illustration que je vais dire fonctionne aussi avec la trottinette ou le skate au parc du Grenouillet. Donc, voilà, on peut faire la version plus locale, cavaillonnaise. Que ce soit en ski, en skate, en trottinette, c'est des sports intéressants, mais avec un certain risque, surtout si on, vous avez vu le skatepark, là, le tout nouveau skatepark au parc du Grenouillet, moi je m'aventurerai pas dessus, hein. Il y a des trucs, je m'aventurerai pas dessus. C'est des sports intéressants, mais un peu dangereux. Et on veut atteindre, pour reprendre l'image du ski, on veut atteindre le bas de la piste en chutant le moins possible. Imaginez qu'à la moindre chute, vous soit fatale. Imaginez qu'à la moindre chute, vous soyez disqualifié. Et à la moindre chute, vous soyez disqualifié, vous deviez rester dans la voiture jusqu'à la fin de la journée, du week-end, voire même de la semaine. Une chute et la semaine ski est finie. Avec une telle menace, avec un tel risque, avec une telle absence de grâce, qui d'entre nous oserait s'aventurer sur la piste ? Peut-être la piste verte des débutants. Et encore. Si la sanction était si forte, personne d'entre nous n'oserait se lancer au ski. Et donc, en conséquence, personne ne ferait des progrès et personne n'apprendrait à skier de mieux en mieux. Vous voyez que, et là qu'on comprend que la présence de la grâce, en fait, permet le progrès. S'il n'y avait pas de grâce, on serait tous tétanisés. Et personne ne ferait des progrès. À l'inverse, en ski, si vous savez que, ok, vous allez peut-être tomber, mais vous allez pouvoir vous relever et continuer et réessayer, alors, vous allez faire quoi? Vous allez essayer. Et vous allez progresser. Et à la fin de la semaine, vous serez capable de faire des pistes bleues, rouges ou noires. La grâce de Dieu pour nous est une source de motivation. Une source de motivation, sachant que la grâce de Dieu sera là quand je vais tomber. La grâce de Dieu sera là quand je serai nul. La grâce de Dieu sera là quand je serai pas à la hauteur. Je ne serai pas disqualifié si je ne tiens pas ma promesse. Alors, ça nous engage, ça nous pousse à se lancer. Ça nous pousse à oser prendre des bonnes résolutions. Ça nous pousse à chercher des progrès. Ça nous pousse à nous donner des défis ambitieux pour notre vie chrétienne. Ça nous pousse à se lancer dans un plan de lecture biblique un peu au-delà de ce qu'on a l'habitude. On sait que même si on n'y arrive pas, pas grave, on pourra reprendre. Et la grâce de Dieu est un moteur, est un carburant. Et dans quel domaine de votre vie, aujourd'hui, êtes-vous un peu en galère? Dans quel domaine de votre vie êtes-vous un peu en galère actuellement? Eh bien, c'est justement dans ce domaine que la grâce de Dieu veut vous restaurer et vous remotiver. Alors allez-y. Alors allez-y, réessayez, remotivez-vous, cherchez à faire des progrès. C'est pas grave. La grâce de Dieu sera là pour vous accompagner. En conclusion, je souhaiterais simplement vous dire le plaisir que j'ai eu à parcourir Néhémie avec vous ces derniers mois. Et même si le chapitre 13 ne finit pas exactement comme on l'aurait souhaité, avec un beau soleil couchant ou comme un beau bouquet, un banquet de sangliers, ce chapitre 13 nous rappelle le besoin encore aujourd'hui d'avoir Christ comme sauveur et rédempteur. Est-ce votre cas? Est-ce que Jésus est votre sauveur et votre rédempteur? Est-ce que vous êtes clairement positionné à ce sujet? Et si c'est le cas, est-ce que vous vous êtes un peu endormi sur vos lauriers, reposé dessus? Peu importe, ne vous endormez pas et faites comme le peuple d'Israël, faites comme Néhémie, criez à Dieu et faites appel à sa grâce. Tout simplement. Celle-ci est grande et sans fin, elle sera toujours là pour vous pardonner, pour vous restaurer et pour vous relever, que ce soit sur une piste de ski, que ce soit au parc du Grenouillet, mais surtout et avant tout, dans votre vie chrétienne. La grâce de Dieu ne vous abandonnera jamais. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne de sa grâce encore et encore. Amen. Et je vous invite à la prière.